Bonjour tout le monde. Avant de commencer la prédication, je vais prier. Nous venons de célébrer ton œuvre, Seigneur Dieu. Merci. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ta grâce qui nous fait y voir un triomphe là où le monde y voit une défaite. Tu n'es pas mort en martyr, Seigneur. Tu es mort en sacrifice. Alors, nous voulons nous aussi te ressembler. Change nos cœurs, change nos désirs, change notre vision de toutes choses. Que nous voyons notre vie comme un sacrifice pour toi. Que nous voyons ce qui fait ta joie comme notre joie. Merci pour ta parole et qu'aujourd'hui encore, elle fasse cette œuvre en nous que tu accompliras jusqu'à la perfection. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter encore ce matin. Amen. Nous continuons notre série de prédications dans l'Épître aux Philippiens. Aujourd'hui, nous allons conclure le premier chapitre. Nous verrons des versets 12 à 26. Mais avant de lire le texte, je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre l'apôtre Paul, Jésus-Christ, Joseph, Moïse, David, Esther et l'apôtre Pierre? Je n'ai sûrement pas retenu tout le monde. Pour chacun d'eux, Dieu a su démontrer sa providence au moyen de situations qui semblaient pourtant perdues. Pierre, trois reniements, une défaite cuisante, mais Dieu en a fait un pilier de l'Église. Esther, une jeune femme juive, cachée dans un empire païen, menacée par un décret de mort, mais Dieu l'avait placé là pour sauver son peuple. David, fugitif traqué par Saül, obligé de se cacher dans des grottes, mais ses années de fuite ont forgé son cœur pour devenir un roi, selon le cœur de Dieu. Moïse, rejeté, exilé au désert, mais Dieu était en train, on avait vu ça, en train de le préparer pour lui aussi sauver son peuple. Joseph, trahi par sa famille, vendu par ses frères, emprisonné, mais ses chaînes sont devenues le chemin du salut pour Israël également. Que dire de la croix du Christ? Pas de plus grand scandale, pas de plus grande humiliation, mais c'est là que Dieu y a remporté la victoire contre le péché et la mort. Pour chacun d'eux, on pourrait citer Genèse 50, vous connaissez tous ce verset. Les hommes avaient médité de faire le mal, mais Dieu l'avait médité en bien. C'est la bonne traduction. Dans la version Louis II, il est écrit « Vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et la nuance est importante entre les deux. « Dieu l'a changé en bien » suggère une réaction, alors que Dieu l'avait médité en bien met en avant la souveraineté divine dès le départ. Dieu ne réagit pas, n'est jamais pris de court, il ne corrige pas le mal après coup non plus, mais il avait déjà intégré le mal, sans en être l'auteur, dans son dessein providentiel. Pourquoi? Pour en tirer un bien. Et c'est ce mystère glorieux que nous allons voir ce matin. Ce que l'homme médite en mal, Dieu l'avait médité en bien. Ce que l'homme croit être une défaite, Dieu en fait une victoire. Ce que l'homme croit être une fin, Dieu en fait un commencement. C'est le fil rouge de toute l'humanité, le fil rouge de toute l'histoire biblique. La providence transforme les défaites en victoires. Il y a cette expression qui dit que l'homme a sa méchanceté, Dieu a son plan. L'être humain est radicalement corrompu, c'est-à-dire profondément, à la racine, depuis le jardin. Mais notre Dieu, lui, est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il a créé était bon, car ses actes reflètent sa nature. Et pour nous, lecteurs de la parole, tous ces récits, c'est une véritable consolation. Rien n'échappe à Dieu, même ceux qui semblent être chaotiques. Ils nous apprennent aussi l'humilité. L'homme croit agir librement contre Dieu, mais ses projets sont déjà intégrés dans son plan divin. à travers plusieurs exemples que je viens de vous citer, nous avons vu que dans l'histoire biblique et humaine, Dieu transforme donc les défaites en victoires. Et si vous avez bien suivi, je n'ai pas encore parlé de l'apôtre Paul. Ce fil rouge se retrouve également dans sa vie. Dans notre passage, nous allons voir aujourd'hui, il nous montre trois renversements étonnants. C'est un véritable chef-d'œuvre de renversement divin. Je vais lire le premier. Hop, tu peux afficher, s'il te plaît. Je vais lire le passage, puis ensuite nous développerons tout ça en trois parties. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. C'est un véritable chef-d'œuvre de renversement divin. Trois parties. Les chaînes deviennent un instrument de victoire. Ce qui semblait une défaite, c'est-à-dire Paul emprisonné, devient un moyen pour l'Évangile d'avancer. On va voir ça des versets 12 à 14. Ensuite, les mauvais motifs deviennent un moyen pour Christ d'être annoncé. Même ceux qui prêchent par jalousie ou rivalité servent malgré eux le dessein de Dieu. Versets 15 à 18. Puis enfin, la mort devient un gain en Christ. Ce qui paraît la plus grande défaite est pour Paul un gain. Versets 19 à 26. Première partie. Comme Paul le rappel à Timothée, l'évangile n'est pas lié. Je peux avoir un nom, s'il te plaît. C'est moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul a été lié comme un criminel. Si l'amour est un crime, alors oui, Paul est un criminel, il est même un multirécidiviste. Quand il écrit la lettre à Timothée, il est encore... On est là. Excusez-moi. J'ai sauté un truc. Bon, il n'y est pas. Quand il écrit la lettre à Timothée, il est encore en prison. 4 ans plus tard, et pour les mêmes motifs, il affirme avec force que la parole de Dieu n'est pas liée. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà expérimenté avec les Philippiens. À plusieurs reprises, on peut s'apercevoir que ces chaînes ont fait résonner l'évangile bien plus loin que ses pas. Là, je vais l'avoir. Là, c'est bon. Je vous relis les trois premiers versets de notre passage pour se remettre dedans. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Personne n'ignore pourquoi Paul est en prison. Dans le prétoire, c'est-à-dire le palais impérial, plus précisément le quartier général de la garde prétorienne à Rome. C'est l'élite militaire chargée de protéger l'empereur. Ce n'est pas une simple caserne, c'est un lieu stratégique rempli de soldats triés sur le volet, les bérets verts pour l'armée française. Les soldats, les officiers, les serviteurs, tous entendent parler de Jésus-Christ. Paul, pour prendre cette image, est enchaîné à un soldat, et ce soldat, lui, est enchaîné à l'évangile. Et ces hommes, des commandos d'élite, parlent à leurs collègues, à leur famille, et la bonne nouvelle se répand. On estime potentiellement jusqu'à 9000 soldats ont pu entendre parler de Jésus-Christ. L'évangile, j'aime bien cette image, c'est comme un caillou lancé dans l'eau, un faible impact, mais des ondes qui s'étendent à l'infini. C'est ce qu'on peut lire en Colossiens 6. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a souvent deux mots qui marchent ensemble, c'est évangile et progrès. Comme la semence entraîne la moisson. Les chaînes n'ont pas arrêté l'évangile, au contraire, elles ont accéléré. Paul a réussi à transformer sa situation personnelle en encouragement collectif. Et pourtant, il est en prison, enchaîné à un soldat, les conditions de détention n'étaient pas fameuses à l'époque. C'était très mal parti. Ce qui était vrai pour Paul, l'est pour nous aussi. Nos épreuves sont souvent utilisées par Dieu comme des tremplins. Que ce soit une maladie, un patron injuste, une solitude trop lourde, une situation qui ne change pas. Chacun connaît ses propres chaînes. Le diable peut déployer toutes ses armes pour freiner l'évangile. Il échoue toujours. Aujourd'hui encore, des vies sont sauvées, des cœurs sont changés, et rien ne peut arrêter l'évangile. Si Dieu permet la souffrance dans ta vie, quelle qu'elle soit, c'est jamais gratuit. Dis-toi bien qu'il y a un but à cela. Les chaînes de Paul ont prêché aux soldats, et les souffrances des saints, aujourd'hui, prêchent encore au monde entier. Quand nous faisons confiance à Dieu dans l'épreuve, nous prêchons sans parole, mais avec puissance. C'est ce que nous voyons au verset 14. Notre attitude influence les gens du monde, les perdus, mais surtout les croyants. Quand un chrétien souffrant continue de faire confiance à Dieu, cela relève les autres. Je pense à un témoignage qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps. Une sœur dans l'épreuve qui la traverse avec une force, une persévérance. Ça nous empêche de baisser les bras. Quand on voit une foi debout, on ne peut pas s'asseoir. Les perdus, quand ils voient ça, se demandent pourquoi nous réagissons autrement. Pourquoi nous ne râlons pas comme tout le monde ? Et les croyants éprouvés, eux, trouvent courage et s'appuient sur Dieu. À première vue, dans notre verset, ce qui peut paraître surprenant, c'est pourquoi la prison a pu encourager les croyants. Deux explications semblent possibles. Ils se sont sûrement dit, si l'apôtre continue de prêcher même en prison, alors nous aussi, nous devons le faire. Ou alors, dans l'église primitive, certains se disaient « Je peux pas parler comme l'apôtre, c'est pas possible, il est apôtre, pas moi. » Mais quand il a été incarcéré, ils se sont dit « S'il peut pas le faire, moi je vais aller parler. » Conséquence, des hommes se sont levés. Que ce soit la première raison ou la seconde, le résultat reste le même. Des centaines, peut-être des milliers, ont pris les routes romaines pour annoncer le Christ. Paul nous en a parlé Florent nous en a parlé la dernière fois, ces voies romaines, construites à l'origine pour l'expansion de l'Empire romain, soit pour le commerce ou pour les armées, sont devenues des autoroutes pour l'Évangile. Les routes de l'Empire ont été pensées pour les armées, pour Rome, mais Dieu les avait pensées pour ses témoins. Notre Dieu contrôle absolument tout. Ça doit nous réconforter dans toute situation. Trop souvent, les chrétiens se laissent décourager par les oppositions. Les circonstances changent parfois, mais parfois, non. Et si elles ne changent pas, c'est qu'il y a un but à travers elles. Quand Dieu ne change pas nos circonstances, c'est pour que ce soit elle qui nous change. Au verset 14, on voit ce que les circonstances de Paul ont changé chez les croyants. Ils sont devenus plus audacieux pour annoncer la parole. Il faut bien comprendre que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Ils avaient sûrement peur. Être chrétien à l'époque, à Philippe, c'était pas facile, on le voit dans le livre des Actes. Mais c'est la capacité de regarder la peur en face. Quels effets ont sur nous les témoignages que nous entendons, que nous voyons à portes ouvertes? Si ça augmente notre compassion, c'est déjà un bon début. Mais leur récit nous rappelle une vérité. C'est que la foi est une réalité vivante qui coûte parfois tout. Ça doit nous sortir de la tiédeur, nous encourager à avancer malgré la peur. Et bien souvent, on risque pas, c'est plus de la timidité que de la peur qu'on ressent, on risque pas notre vie. Ça doit nous pousser à parler, nous aussi. Si Dieu est fidèle là-bas, Dieu est fidèle avec nous aussi. Les souffrances des frères et sœurs ne sont pas que des témoignages, ce sont des véritables appels, des appels à agir. John Bunyan, vous connaissez, l'auteur du Voyage du Pèlerin, emprisonné 13 ans pour avoir prêché l'évangile dans les rues. Et à chaque fois qu'on lui demandait « Si on te libère, est-ce que tu arrêteras ?» Il disait « Libère-moi aujourd'hui, demain je prêcherai encore. » Alors ils l'ont gardé enfermé. Sa fidélité a ouvert la voie à des générations de prédicateurs. Vous connaissez sûrement aussi John Wesley, George Whitefield, leur ministère reposait sur le courage de John Bunyan. Dieu, effectivement, transforme nos échecs en victoire. Et dans sa souveraineté, il va même plus loin. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Après avoir montré que ces chaînes sont devenues un instrument de victoire, Paul aborde maintenant un deuxième renversement. Dieu utilise même les mauvaises motivations, les mauvais desseins des cœurs pour faire avancer son évangile. Et pour introduire cette idée, je tiens à rappeler une vérité essentielle qu'on retrouve en Corinthiens 4:5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Trois vérités ressortent de ce verset. Première vérité, discerner c'est permis, condamner non. Le discernement observe une situation, la condamnation prononce un verdict. Et ce verdict appartient à Dieu seul, au moment que lui seul a fixé. Deuxième vérité, Dieu ne jugera pas seulement les actes visibles, mais aussi les intentions secrètes des cœurs. Lui seul connaît les cœurs. On ne peut pas se permettre de deviner ce qu'il y a dans le cœur d'un autre. Trois, la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu seul qui connaît la vérité. La louange du jugement. Et c'est exactement ce que Paul applique dans notre passage. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Paul, dans ce passage, n'est pas en train de les juger. Il est juste en train de faire preuve de discernement. S'il était en train de les juger, il ne pourrait pas être en train de se réjouir à la fin de ce passage. Parmi les milliers qui se sont levés pour annoncer l'évangile dont je vous parlais tout à l'heure, Paul discerne deux groupes. Ceux qui prêchent par amour, ils savent que Paul est établi pour la défense de l'évangile, ils veulent soutenir l'œuvre, ils veulent glorifier Christ. Et ensuite, il y a ceux qui prêchent par jalousie. ils veulent rivaliser avec Paul. Prouver qu'ils peuvent faire mieux que l'apôtre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je sais pas. Peut-être la notoriété, l'influence, l'honneur. Ils veulent se faire un nom. Je sais pas. Dieu lui sait. Ils espèrent même rendre la captivité de Paul plus pénible. Dans le monde gréco-romain, c'était plutôt quelque chose de courant. Les prédicateurs itinérants rivalisaient, passaient les uns après les autres et rivalisaient pour la réputation. Et malheureusement, c'est arrivé dans l'Église. L'Évangile a été traité comme une compétition. Et quand l'Évangile devient une compétition, les Églises sont en danger. Le ministère n'est jamais une course de popularité. Toujours un service humble pour la gloire de Dieu. Mais ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que Paul, lui, ne se scandalise pas, ne se met pas en colère, il ne se défend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu contrôle tout. Il est au contrôle. Il n'accorde que peu d'importance à ceux qui veulent l'unir. Sa petite personne n'est pas le centre. Sa réputation n'est pas le sujet non plus. Et son confort n'est pas la priorité. Ce qui compte pour lui, une seule chose, c'est que Christ soit annoncé. Même si les motivations sont impures, même si l'instrument est faible, même si l'intention est mauvaise, Paul ne change pas sa ligne de conduite. Sa raison d'être reste la même. Il a été établi pour la défense de l'Évangile. On peut lire ça au verset 16. Le texte joue volontairement sur le contraste entre mauvais motifs et bonnes nouvelles. Vous connaissez cette expression, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais Dieu arrive même, dans sa souveraineté, à la faire sortir de la bouche des hypocrites, des jaloux. Et encore une fois, Dieu transforme ce qui semble être un échec en succès. Il utilise même les mauvaises motivations pour accomplir son dessein. La valeur du message ne dépendra jamais de la pureté du messager. Encore, on attendra encore que le culte commence. Le vase est fragile, mais le trésor est précieux. Et l'Évangile, lui, garde toute sa puissance. Quelle est la première puissance d'une bonne nouvelle? C'est de donner le sourire. Christ est annoncé, et Paul s'en réjouit, et s'en réjouira encore. Quand l'Esprit de Dieu souffle, même le bois mouillé alimente le feu. Finit par brûler, et lui aussi dans un grand feu. Et pour Paul, c'est un feu de joie. J'aime bien cette image du feu, une petite étincelle à Jérusalem, et c'est toutes les nations autour qui s'embrasent. L'Évangile progresse inexorablement. Ce passage, pour nous, c'est une leçon de détachement spirituel. C'est une invitation à une joie centrée sur Christ. Il faut bien comprendre ce qu'est le détachement spirituel. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas le mépris du monde. C'est la liberté intérieure qui naît quand Christ devient plus précieux que tout ce que je pourrais perdre. Paul nous invite à partager cette vision. Si l'avancement du royaume de Dieu fait toute notre joie, il est impossible d'être triste, car il est inarrêtable. Avec la même vision que Paul, c'est-à-dire le regard porté sur Jésus, la joie triomphera toujours. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des adversités. Le chrétien détaché n'est pas moins engagé dans le monde, il est juste moins gouverné par lui. Je ne dépends plus des circonstances pour ma joie. Je ne dépends plus de ce que je possède. Je ne suis pas détruit par ce qu'on pourrait m'enlever. Le détachement spirituel, il faut le voir ainsi, c'est comme un objet qu'on tient dans une main ouverte. Tant que je garde ma main fermée, je vis dans la peur. Peur qu'on me l'arrache, peur de le perdre. Mais quand ma main s'ouvre, je m'aperçois que j'avais rien à défendre. Dieu peut y déposer bien plus précieux que tout ce qu'on pouvait garder auparavant, précieusement. La grâce ne nous demande pas de tout perdre. Elle nous montre juste qu'en fait, on n'avait rien. Et là, toute notre vision est alors bouleversée. Ce qui semble être maintenant une défaite se changera inévitablement en victoire. Et Paul en est convaincu. Même ses chaînes, même ses souffrances vont se transformer en salut. car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Ce verset est un pivot. Il relie la souffrance, la souveraineté, la communion des saints, l'œuvre de l'Esprit, tout ça à la victoire finale. Et surtout, il montre comment Dieu transforme une défaite apparente en victoire certaine. Paul cite, presque mot pour mot, Job 13, verset 16. « Cela même tournera à mon salut. » Comme Job, Paul est dans l'épreuve. Comme Job, il est incompris. Comme Job, il ne voit pas encore la délivrance. Mais comme Job, il sait que Dieu transforme l'épreuve en victoire. Le mot « salut » est un mot providentiel par excellence. En grec, c'est un mot très riche. Il peut désigner plusieurs choses. La délivrance, la préservation, la persévérance, la victoire finale, la restauration et la sortie triomphante d'une épreuve. Paul joue volontairement sur la richesse de ce mot. Dans le contexte immédiat, il est en train de dire « Cette épreuve ne me détruira pas. Dieu l'utilisera pour ma persévérance et ma victoire. » Et dans le contexte global, il est en train de dire « Que je vive. Que je meure, Christ sera glorifié. » Et c'est cela mon salut. Autrement dit, la victoire est déjà écrite. Même les circonstances ressemblent à une défaite. Paul, dans ce verset, mentionne deux instruments de la providence. Les prières, parce que la foi isolée peut espérer, mais la foi soutenue par l'Église avance, persévère et finit par triompher. Et ensuite, il parle de l'assistance de l'Esprit. Le mot « assistance » évoque un soutien abondant, même surabondant, une provision qui dépasse de loin le besoin. Paul dit « Je ne sortirai pas de cette épreuve par mes forces, mais par l'Esprit de Dieu. » Et c'est précisément parce que Paul sait que tout tourne à son salut qu'il peut maintenant aborder la réalité la plus redoutée de toutes, même la mort, qui n'a pourtant pas bonne réputation, devient pour lui une victoire. Nous avons d'abord vu que les chaînes de Paul, loin d'être une défaite, sont devenues un accélérateur pour l'Évangile. Ensuite, les rivalités et les intentions impures n'ont pas pu arrêter la bonne nouvelle. Christ est annoncé, Paul s'en réjouit. Mais il y a encore plus grand. Maintenant, Paul lève les yeux vers l'horizon ultime. Après les chaînes, après les rivalités, la mort elle-même devient pour lui un gain. Dans toute l'histoire de l'humanité, un seul homme a entendu la plus belle phrase qu'on puisse entendre. Luc 23, verset 43. Suspendu à côté de Jésus, il reçoit ces mots. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Moment de grâce, de joie. En un instant, la défaite de la croix, la défaite de toute sa vie, tout ce qui a pu le conduire à ce moment-là, devient pour lui la victoire éternelle. Trois mots magnifiques. Aujourd'hui et avec moi. Pas peut-être, pas on verra bien. Le paradis n'est pas un lieu avant d'être une présence. Et vous, quand vous fermez les yeux, quelle image avez-vous du paradis ? Est-ce que vous voyez un décor ou est-ce que vous voyez une rencontre ? Si dans votre définition du paradis, vous n'y voyez que l'absence de pleurs, la joie éternelle, les louanges, mais qu'il n'y a pas Jésus, c'est une vision tronquée. Le brigand, lui, n'a pas eu le temps de réfléchir à la question. Il lui restait une heure à vivre. Il a donné juste un instant de foi. Jésus lui a donné une éternité. Cette promesse est valable pour tous ceux qui ont foi en l'œuvre de Jésus. Et Paul, comme chaque enfant de Dieu, attend ce moment avec persévérance. Verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » En lisant ces versets, on pourrait se demander si la mort n'est pas glorifiée. C'est pas la mort qui est glorifiée, c'est Jésus. La mort est un gain uniquement parce qu'elle nous conduit à lui. Sans Christ, on respire, mais on ne vit pas. On appelle plus ça de la survie. Sans lui, tout va finir par s'effondrer tôt ou tard. Ce verset est l'un des plus puissants résumés de la théologie de Paul, notre pasteur, par la même occasion. Il affirme que Christ est le centre, le sens, la source et la finalité de sa vie. Paul peut dire, pour moi, vivre c'est Christ. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants. Parce que cette phrase n'est pas seulement magnifique, elle est révolutionnaire. Souvent, nous raisonnons comme beaucoup de chrétiens. On se pose une question juste. Qu'aurait fait Jésus à ma place? La Bible nous invite à l'imiter. Mais l'imitation seule ne suffit pas. Parce que si nous essayons d'imiter Jésus sans puiser en Jésus, nous allons nous épuiser. Nous allons tenter de reproduire une vie divine avec des forces humaines. Ça, c'est impossible. Christ comme modèle. Sans Christ comme source. On appelle ça du moralisme. Christ comme modèle et comme source, c'est la vie chrétienne. Paul ne dit pas pour nous, vivre, c'est imiter Christ. Il dit pour moi, vivre, c'est Christ. C'est pas là du tout la même chose. On agit pas seulement comme Jésus-Christ, nous agissons par Christ, à partir de Christ et avec la force de Christ, en communion. Il n'est pas seulement devant nous comme exemple, il est en nous comme puissance. Imiter Jésus sans dépendre de Jésus. C'est comme essayer de faire tourner un ventilateur sans le brancher. Il va tourner 3 secondes, puis il va s'arrêter. Mais quand il est branché à la source, il tourne alors sans s'arrêter. Nous ne sommes pas des ventilateurs autonomes. Nous sommes branchés à Christ. Nous devons rester branchés à Christ, rester en communion. Et c'est pour cela que Paul peut regarder la mort sans trembler. Parce que sa vie n'est pas fondée sur ses propres forces, mais sur la vie de Jésus en lui. Et si Christ est sa vie, alors la mort ne peut être qu'un gain, un rendez-vous, une entrée dans la présence de celui qui est déjà sa source ici-bas. La mort, pour le croyant, n'est pas une tragédie, c'est une promotion. Par la foi, on est délivré de ce mensonge de l'ennemi. En réussissant à faire entrer la mort dans le monde, en faisant pécher Adam et Ève, le diable tient le monde sous sa coupe. Mais Jésus, par sa mort, sa résurrection, nous a délivrés de cette servitude. Hébreux 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Christ est venu briser la plus vieille prison du monde, la peur de mourir. Calvin a dit, la peur de la mort, c'est le fouet par lequel Satan nous tourmente. Le chrétien n'est plus un esclave qui tremble sous les coups de fouet. C'est un fils qui attend le Père. On pourrait se demander, la peur de la mort n'est-elle pas naturelle? La réponse est oui. Mais ce n'est pas la destination qui nous effraie, c'est le passage. Parce qu'Hébreux parle d'une peur esclavagiste, liée au jugement. Jésus nous enlève la cause de la peur, c'est-à-dire la culpabilité. La sainteté de Dieu rend la mort terrifiante seulement pour le pécheur. Mais la croix, que nous venons de célébrer, ôte cette terreur. C'est un peu comme quand un enfant, terrifié par un monstre, s'aperçoit qu'en fait c'était juste un costume. Le costume a été ôté. Satan a perdu. Nous ne sommes plus esclaves. La mort n'est plus un maître. C'est un passage, oui, mais que Christ a déjà traversé pour nous. C'est ce que Paul dit ici. Il n'est pas en train de jouer au héros spirituel, il nous ouvre son cœur. Paul vient d'affirmer que la mort est un gain. Mais ça ne doit pas nous pousser au fatalisme. Au contraire, on voit qu'il réfléchit. Si je vis, il y a du fruit. Si je meurs, il y a Christ. Et ce raisonnement va l'amener à un dilemme magnifique qu'on peut voir dans la suite du texte. Versets 22, 23 et 24. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer, Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Est-ce que vous savez à quel point les marins aiment la mer? À quel point l'appel du large est irrésistible? Paul, dans ce passage, est un peu comme l'un d'eux. Debout sur un quai, derrière lui, le port, sa famille spirituelle, les frères et sœurs qui ont encore besoin de lui, les travaux inachevés et les âmes encouragées, et devant lui l'horizon. Une mer calme, un soleil qui se lève, et au loin, Jésus qui l'appelle, comme un capitaine. Paul regarde le port, puis l'horizon. Le port, puis l'horizon. Deux réalités, deux désirs, deux appels. Il dit, partir serait bien meilleur, mais rester est nécessaire pour vous. C'est pas un homme hésitant, c'est un homme aimant. Il est tout sauf indifférent. Il voit l'horizon, mais il choisit encore le port. Parce que l'Église a besoin de lui. Il a appris à aimer ce que Dieu aime. Dieu aime son Église. Cette analogie vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai essayé de vous rendre visible le tiraillement de Paul, ainsi que sa tendresse pastorale. Son cœur est partagé entre adoration et mission, même si la mission fait partie de l'adoration. Le dilemme de Paul est celui de tout serviteur. Partir vers la gloire ou rester pour le bien des autres. Le fruit du ministère, il faut bien se dire ça, le fruit du ministère est une raison suffisante pour différer la gloire. On pourrait se demander si Paul hésite vraiment entre vivre et mourir. Encore une fois, la réponse est oui. Mais c'est pas du désespoir. Il discerne entre deux bons choix. Ce passage, il faut bien le voir ainsi, est une invitation à la joie de vivre en toutes circonstances, même jusqu'à la mort. Vous connaissez sûrement des gens, des chrétiens, des frères et sœurs, dans cette situation, beaucoup souffrent, et en s'appuyant sur ce passage, disent « j'ai hâte que ce soit fini ». Paul ne nous dit jamais que la vie est facile. Il comprend ce qu'on peut ressentir. Lui aussi a connu la fatigue, la douleur, l'usure. Le désir d'être avec Christ n'est pas un péché, au contraire, c'est un désir saint. Dans la souffrance, malheureusement, l'espérance peut céder au désespoir. Vouloir être avec Christ, c'est normal. C'est même un signe de foi. Mais Paul ne décide pas lui-même du moment. Il laisse Dieu choisir. Et tant que Dieu nous garde ici, c'est qu'il y a encore un sens. Même si, malheureusement, on peut le perdre de vue. On ne voit plus ce sens. Le désir d'être avec Dieu ne doit jamais, jamais céder à l'impatience de l'Esprit Christ. On peut en arriver à penser qu'on ne sert plus à rien. J'ai déjà entendu ça. Mais Paul dit, tant qu'un croyant respire, il porte encore du fruit. Par notre patience, notre foi, nos prières, notre simple présence, nous restons un témoignage pour l'Église de Dieu et utile. Et là encore, ce qui semble être une défaite aux yeux du monde avait été médité en victoire par Dieu. Le monde voit la faiblesse, Dieu, lui, y voit du fruit. Le monde voit la fin, Dieu, lui, voit un commencement, un ministère. Le monde voit l'inutilité, Dieu y voit une lumière qui continue de briller. Paul était partagé entre deux désirs, mais c'est pas la souffrance, ni la peur, ni même son propre confort qui vont décider, c'est l'amour. Et cet amour l'amène à une conclusion étonnante. Je vais rester pour vous. C'est ce qu'on voit au verset 25 et 26. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Qu'aurait dit le monde là? Paul, choisis ce qui est le meilleur pour toi. Mais Paul choisit ce qui est le meilleur pour eux. Et ce renoncement devient également une victoire. Paul renonce à son gain immédiat pour le gain immédiat des Philippiens. Il renonce à son repos pour leur progrès. Il renonce à sa joie personnelle pour que leur joie à eux abonde en Christ. Et c'est exactement ce que fait l'amour. L'amour ne choisit pas ce qui est le plus facile, il choisit toujours ce qui est le plus utile. Ce qui fait grandir l'autre, mais surtout ce qui glorifie Jésus. Alors oui, Paul renonce, mais ce renoncement n'est pas une défaite, c'est une victoire cachée, une victoire qui ressemble à Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus a renoncé, on va voir ça au prochain chapitre, à ce qui était le meilleur pour lui, la gloire du ciel, pour ce qui est le meilleur pour nous, notre salut. Paul, dans ces versets, nous dit « Je sais que je resterai pour votre progrès et pour l'abondance de votre joie. » Cette victoire du renoncement, cette victoire de l'amour, c'est la victoire de Jésus dans un cœur chrétien. 30 ans plus tôt, Paul persécutait la même église pour laquelle il se réjouit de continuer à souffrir maintenant. 30 ans plus tôt, il mettait les chrétiens en prison. Aujourd'hui, il écrit depuis une prison pour les encourager. Et 30 ans plus tôt, il respirait la menace et la violence. Aujourd'hui, il respire la joie et l'amour. Un cœur rempli de haine a été victorieusement transformé en un cœur rempli d'amour. Ça, c'est la puissance de Jésus, la puissance du salut, qui prend un destructeur et qui en fait un bâtisseur. La victoire de Jésus, ce n'est pas seulement changer notre vision, c'est surtout changer nos désirs. Et quand Paul dit « Je resterai pour votre progrès et pour l'abondance de votre joie », il le dit avec un cœur que Dieu a complètement retourné. Paul n'a pas compté ses victoires pour lui, il les a toujours comptées pour Dieu. Chaque occasion de glorifier Jésus, voilà son succès. C'est ce qu'on peut lire à la fin du verset 26. Voilà pourquoi, malgré les chaînes, malgré les blessures, malgré les apparences de défaite, la vie de Paul a toujours été jalonnée de succès. Parce que sa préoccupation première n'a jamais changé, la gloire de Dieu. Et que ce soit en prison, que ce soit dans la faim, le froid ou les conflits, Jésus a promis de toujours être avec ses serviteurs, d'être avec nous. Et si Dieu est pour nous, les chaînes ne nous enferment pas. Si Dieu est pour nous, les rivalités ne peuvent pas nous abattre non plus. Si Dieu est pour nous, même la mort devient une victoire. Si Dieu est pour nous, on complète le verset, qui sera contre nous ? Amen.